Dans le livre de la Genèse, on va reprendre le texte dans Genèse 22. On va tirer quelques enseignements encore de ce passage. Genèse 22. Verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père, répondit, me voici, mon fils. » Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et la postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Voilà le personnage d'Abraham, donc intéressant, nous l'avons un petit peu vu la semaine dernière. Il a été appelé le père des croyants, donc un homme qui caractériser la foi en Dieu, la confiance, et tout au long de son pèlerinage, nous avons vu que Dieu l'a appelé à des choses difficiles, mais Abraham a toujours obéi par la foi. Et ce soir, j'aimerais souligner cette vie livrée d'Abraham entre les mains de Dieu. C'est intéressant de voir comment, quand un homme a livré sa vie entre les mains de Dieu, Dieu est capable de le conduire, de pourvoir, de le diriger, de... on voit que Dieu a été capable de le façonner. Nous l'avons vu la semaine dernière du chapitre 12, 13, 14, 15. On voit comment à chaque étape, Dieu s'est révélé. Et non seulement il s'est révélé, mais il a façonné Abraham. Une vie livrée entre ses mains. Combien c'est beau. Et dans ce, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous entendons plutôt ce que Dieu peut faire pour l'homme, ce qu'il peut donner, plutôt que également ce que Dieu nous appelle à faire, ce que Dieu nous appelle à lui donner. Parce que ce soir, eh bien, nous parlerons de cela, ce que Dieu nous appelle à lui donner pour que lui puisse nous donner. Ce que Dieu nous appelle à faire pour lui, afin qu'il puisse faire pour nous. Dieu ne fera que ce que nous lui permettons de faire. Et si nous lui donnons ça, Dieu fera avec ça. Mais si nous lui livrons aussi nos vies, eh bien, Dieu pourra faire de grandes choses dans nos cœurs, dans nos vies, nous façonner, mais également aussi se révéler d'une manière particulière, parce que Dieu nous appelle à une vie profonde. Dieu est un Dieu grand, glorieux, un Dieu saint, et il nous appelle à cette vie profonde avec lui. Et dans ce texte, il y a plusieurs points. Il y a conflit entre le passé, le présent et l'avenir. Il y a la peur et la foi. Il y a la foi et la justice, l'obéissance et le défi, la liberté et le sacrifice. Alors on pourrait se dire, mais quel genre de père peut offrir son fils en holocauste? Ça nous dépasse. C'est quelque chose qui dépasse même l'entendement. Ou quel Dieu demanderait à un père d'offrir son fils? Nous, on lit ces choses comme ça, mais quand même, il faut se replacer un petit peu dans le contexte. Mais on s'aperçoit que dans ce passage, il y a quelque chose de profond. Abraham est appelé au sacrifice plus que de son fils. Il est véritablement appelé à son sacrifice à lui-même. Et on soulignera ce premier point, lui sacrifier son avenir. Parce que là, quand Dieu lui demande Isaac en holocauste, il lui demande de lui sacrifier tout son avenir, son espérance, les promesses qu'il a reçues, il lui demande à lui sacrifier. Alors on peut s'interroger et s'arrêter là. Abraham aurait pu dire, voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une postérité, comme nous l'avons vu, il s'est arrêté là, il cultivait des arbustes, il était, voilà, Dieu m'a béni, ben ça va continuer comme cela jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Mais on n'en a jamais fini avec Dieu. Et on n'a jamais fini. Et notre avenir, il n'est pas tout tracé humainement. Notre avenir, il doit dépendre de Dieu. Et dans ce texte, c'est ce qui se passe. Dieu lui demande plus que son... Il lui demande de se sacrifier lui-même, parce que quand Dieu lui demande cela, il y a les promesses qui sont là, remets-les-moi. Il y a le Fils, l'unique, remets-le-moi. Il y a son avenir à lui, sa famille, etc. Pour Abraham, c'était un appel à mettre fin à son histoire, à mettre fin à la promesse, à mettre fin à ce qu'il avait embrassé par la foi. Isaac était plus que l'enfant de la vieillesse. Il était le seul lien avec l'avenir, vers l'avenir, dans lequel Abraham avait été consacré. Isaac, c'était ce lien-là avec l'avenir. On peut regarder ce texte en disant, bon, c'est l'ancienne alliance, Dieu a demandé des choses particulières à ces hommes de Dieu, Dieu leur a demandé des choses qu'ils ne demandent plus aujourd'hui, mais quand on lit le Nouveau Testament, parce qu'il y a un lien, bien sûr, entre l'Ancien, le Nouveau, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, il y a un lien, et ce qui était parfois matériel dans l'Ancien Testament devient spirituel dans le Nouveau Testament. On pourrait lire un texte qui parle un petit peu de cela, dans Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8, on pourrait lire à partir du verset 34, bien que les versets qui précèdent sont intéressants, mais à partir du verset 34. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire avec son Père, de son Père avec les saints anges. » Vous voyez, ce texte-là, Jésus appelle aussi à un sacrifice. Jésus appelle à ce sacrifice. Dans ce passage, la pensée du sacrifice de Jésus, dans les versets qui précèdent, Jésus parle de son propre sacrifice. Il parle de sa mort à la croix, de ses souffrances. Et tout de suite après, il parle de celui qui veut le suivre, celui qui veut être réellement son disciple. Eh bien voilà, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à ses prérogatives, renoncer à son présent, à son avenir, remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Vous voyez, l'Évangile, ce n'est pas juste appeler quelqu'un à être heureux. Ce n'est pas ça du tout. L'Évangile, c'est autre chose. C'est vivre avec Dieu, vivre dans le plan de Dieu, vivre dans la vision de Dieu. Et cela comporte notre présent, notre avenir. Cela, voilà, c'est notre avenir ne sera plus ce que nous avons projeté, mais ce que Dieu a voulu pour nous. C'est pas pareil. Voyez, s'il y a si peu d'action, c'est qu'il y a si peu de vie livrée aussi entre les mains de Dieu pour que lui conduise, pour qu'il nous bénisse. Et finalement, l'identité de Christ dans ce texte et dans un autre passage, il dira « Mais qui dit-on que je suis ?» La révélation de Christ, la révélation de sa mission, de son plan, de la croix, est liée à notre identité à lui et à notre mission aussi. Nous ne sommes pas indépendants de Christ. Tel il est, tel nous serons aussi, tel nous sommes. Notre identité, elle est en Christ. Notre mission, elle est la mission de Christ en nous, le plan de Dieu en nous. Et nous voyons dans ce texte, mais juste un petit peu plus haut, les disciples doivent avoir une révélation exacte de qui est Christ et de sa mission. Pierre a été repris, réprimandé par rapport à la mission de Jésus. Nous le voyons au verset 33, mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pierre était à côté. Pierre n'avait pas la bonne révélation de la mission de Christ, du plan de Dieu au travers de son Fils. Et Jésus va le réprimander. Nous sommes appelés à sacrifier nos propre vie entre les mains de Dieu, notre sens de l'avenir. Jésus, lui, a tout abandonné. Il n'y avait rien de lui-même, mais ce qu'il faisait, c'était exactement ce que le Père lui disait de faire. Et nous voyons que Jésus a été en bénédiction pour les foules, et il a été notre Sauveur, notre Seigneur. Il a toujours accompli la volonté de Dieu. Bien sûr, lui, il était parfait, il n'y avait aucun péché en lui, il avait la plénitude du Saint-Esprit, ça nous pouvons le souligner, mais nous sommes appelés aussi à livrer nos vies, et c'est pas simple, hein, parce que l'humain en nous résiste, la chair résiste, le monde nous aide à pas aller de l'avant, le diable met des entraves dans nos vies pour que nous ne livrions pas nos vies entre les mains du Seigneur. L'invitation de Jésus pour nous ressemble d'une façon frappante à l'appel de Dieu pour Abraham. C'est un appel à abandonner notre avenir, même notre avenir spirituel, même notre propre vision spirituelle. On la remet entre les mains de Dieu. Il y a un chant qui dit ça, là. J'abandonne sur l'autel, non? Vous vous rappelez de ça? Voilà. Donc même ça, on a l'impression que si nous on a une pensée du Seigneur, on a quelque chose, voilà, notre avenir est... Non, on le remet entre les mains de Dieu. On remet toutes ces choses entre les mains de Dieu. C'est lui qui veut nous diriger. Vous savez, c'est pas nous qui dirigeons Jésus, c'est pas nous. Notre façon d'imaginer l'action de Jésus en nous, ce qu'il doit faire, ce qu'il pourrait faire, mais nous sommes appelés à le suivre, point. Des fois, même dans nos prières, on peut donner quelque part un petit peu des ordres au Seigneur, lui dire, voilà, fais. Nous sommes appelés à le suivre dans son exemple, à le suivre dans le sillon qu'il a tracé, à le suivre dans sa volonté, à le suivre tel il est. Nous sommes appelés à cette ressemblance-là. L'appel n'est pas de sacrifier quelque chose, mais de sacrifier nos propres vies, c'est cela. Et je crois qu'il faut que nous regardions avec un regard de foi quand le Seigneur nous appelle à lui sacrifier nos vies. Parce qu'on pourrait dire, oh là là, c'est dur cet évangile, moi je veux de la joie, de la joie, de la joie. Voilà, il nous appelle. Mais c'est par la foi. Abraham a vu derrière lui une postérité extraordinaire, des promesses s'accomplir, et il est appelé le père des croyants. C'est pas rien. C'est parce que lui-même a eu une confiance totale en Dieu. Et il faut reconnaître que parfois on n'a pas une confiance totale en Dieu. Peut-être vous, mais moi, il y a des moments où c'est pas ça. Mais le Seigneur nous appelle à lui faire pleinement confiance. Donc vous connaissez bien ce texte, nous l'avons lu dans Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Voilà, c'est par les compassions de Dieu, eh bien, nous invite à offrir nos vies, nos corps, comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, je décide, c'est pas que je suis mort, mais je suis vivant, un sacrifice vivant. C'est moi qui y vais volontairement, je me donne à Dieu, je lui livre ma vie, mon avenir est entre ses mains. Et Seigneur, fais comme tu veux, fais ce que tu veux. C'est pas facile à dire ça, hein? Mais si on a confiance en Dieu, on le dit spontanément et avec joie. Mais si on n'a pas tout à fait confiance, on se dit, ouais, je lui dis ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si on croit que Dieu est notre Père céleste, qu'il nous aime, qu'il a compassion, donc qu'il a un plan pour nous, et nous ne devons pas craindre si la Bible nous demande ces choses, il faut, je vous parle et je me parle aussi, il faut que nous puissions vivre cet évangile. Oui, lui sacrifier nos vies. Ne plus résister, ne plus régimber, ne plus garder pour moi, ne plus m'inquiéter pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que... Non, je lui remets ma vie. Je lui remets mon avenir. Parce que lui, ce qu'il a prévu est de beaucoup meilleur que ce que nous pouvons même penser ou imaginer. Donc Abraham a réussi ce test, il a réussi cette épreuve, il est passé, il a été vainqueur. Finalement Dieu a vaincu son cœur, mais Abraham a été vainqueur aussi avec Dieu. Il a eu une bonne attitude. Versets 4 et 5, je crois qu'on avait souligné un petit peu ça, mais une bonne attitude, il a obéi, il a fait tout ce qu'il devait faire, il s'est levé de bon matin, il n'a pas rechigné, il a obéi à Dieu parce qu'il connaissait Dieu, il savait que Dieu ne allait pas l'envoyer dans une voie de garage, et il l'appelle à se rendre à Morija. Alors Morija, c'est l'emplacement de Jérusalem, le mont du Temple, c'est là que ça se situe. Vous savez que ça se situe là où Jésus a été crucifié. Donc il y a bien sûr prophétiquement le sacrifice de Jésus. Nous n'avons pas le temps de rentrer là, on effleurera tout à l'heure, mais pour nous, le sacrifice que Dieu nous demande n'est pas facile. À vue humaine, c'est pas facile. La chair ne veut pas et elle résistera toujours. Nous, on veut, la chair, vous savez ce qu'elle veut? Une religion. La chair veut chanter, prier, bah, on tourne la page et c'est fini. Voilà, la chair, c'est ça. On tourne et puis on vit comme on veut. Mais ça, c'est la chair. Mais l'esprit nous invite à suivre le Seigneur, non pas juste le temps de la réunion, mais tous les jours. Seigneur, je suis à ton écoute, conduis-moi. Dans la journée, si je dois rencontrer quelqu'un, si on est constamment à l'écoute de la voix du Seigneur, comme cette sentinelle. Voilà, c'est pas la religion, elle compartimente, voilà, on met le costume, on enlève, ça y est, c'est fini, maintenant on vit comme... Ah ben, on pense qu'on vit pour Dieu, mais c'est pas toujours évident, hein. Si on laisse le Saint-Esprit sonder nos cœurs, c'est pas facile. Le sacrifice. Abraham a regardé sa vie et son sacrifice comme un culte à Dieu. Un culte à Dieu. Il dit, venez et nous allons adorer. Le sacrifice pour lui, ce que Dieu lui a demandé, l'obéissance, c'était un culte. Oui, c'est loin de nos cultes. Allons adorer. C'est obéir à Dieu. C'est faire ce que Dieu lui demande, à l'emplacement où Dieu lui demande. Il élève un autel. Et c'est là, l'autel du sacrifice, c'est cette adoration. La raison pour laquelle nous régimbons souvent, nous, même il y a quelque peu de la rébellion inconsciente ou indirecte, peu importe, mais vis-à-vis de ce que Dieu, quand nous traversons l'épreuve, c'est parce que nous voulons un culte pour nous. Le culte, il est pour nous. Ah, je me suis fait du bien. C'est pas mal, ça. Mais le culte, c'est pour Dieu. C'est pas pour nous. Bien sûr, on est béni quand on est dans la présence de Dieu, mais nous venons offrir à Dieu un culte. Nous nous offrons, nous obéissons, nous nous prosternons. Nous avons des vies livrées. C'est ça le véritable culte. C'est cela le véritable culte. C'est offrir à Dieu. C'est se sacrifier pour Dieu. C'est le véritable culte. Alors j'avais vu une petite, des dessins comme cela, de l'évolution du culte. Alors je ne sais pas où j'ai trouvé cela, mais nous voyons à partir de l'Ancien Testament les hommes prosternés devant Dieu. Alors sur le dessin, il y a quelqu'un qui est prosterné à plat ventre devant Dieu. Puis nous trouvons un petit peu à genoux, nous trouvons là, et ça finit par quelqu'un avec une guitare comme ça. Vous voyez l'évolution. Nous venons pour Dieu, on ne vient pas se faire du bien ou se faire plaisir. Bien qu'indirectement, nous sommes bénis. Mais nous venons offrir à Dieu. Offrir à Dieu. L'épreuve, pourquoi nous régimbons ? Dès qu'il y a de la contrariété, de l'inconfort, de la douleur, nous sommes bouleversés parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes et non pas sur Dieu. La vision du bonheur et de la réussite chrétienne occulte la vision de Dieu, la vision de sa gloire. Mais quand nous voyons la vie chrétienne comme un culte sacrificiel pour Dieu, ça change tout. Ça change complètement quand on détourne les regards de nous et qu'on les centre sur la personne de Jésus, ça change tout. Vous voyez, la vision de l'épreuve que nous avons, souvent, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas dans la vision de Dieu. L'Écriture nous donne une vision exacte de ce qu'est l'épreuve pour Dieu et pour nous. Et par exemple, nous avons lu ce texte, mais il est bon d'y revenir parce que la parole de Dieu, en deux versets, elle parle plus que moi en un quart d'heure. Voilà, Romains chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Vous voyez comment Dieu voit l'épreuve et comment nous la voyons souvent, nous, attristés, nous sommes contrariés, nous sommes... Alors que Dieu dit, je parle toujours là de l'épreuve voulue de Dieu. Ce n'est pas l'épreuve qui est due à nos inconséquences, à nos péchés. Ça, ça n'a rien à voir. Là, ça ne sert à rien, ça nous abat, ça. Mais l'épreuve voulue, permise, si vous voulez, mais moi je dis voulue de Dieu, pour nos vies, c'est pour que nous soyons meilleurs, pour que notre foi grandisse, pour que notre amour grandisse. Donc elle produit la patience, elle produit l'espérance en nous. C'est ce que... Un discours, 10 000 discours humains ne peuvent pas faire, mais Dieu peut le faire au travers de l'épreuve. Dieu peut le faire. Et notre attitude dans la vie, et plus particulièrement dans l'épreuve, est très importante. Si nous avons une mauvaise attitude, une mauvaise vision de Dieu, une mauvaise vision de son plan, nous échouons, nous passons à côté. Et c'est ce que le peuple dans le désert a fait. Et le Nouveau Testament nous donne... des renseignements sur cela, dans 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 10, verset 10, il est dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Il est question du peuple dans le désert. Ils n'avaient pas une bonne image de Dieu. Ils n'avaient pas une bonne image du plan de Dieu pour eux. Ils n'avaient pas une bonne image de l'avenir avec Dieu. Mais pour eux, c'était le passé. Et ils disaient en Égypte, nous nous souvenons que nous mangions des légumes, tout cela. Ils se souvenaient que de ça, mais ils ne se souvenaient pas des coups de fouet, de Pharaon, etc. Ils se souvenaient juste des légumes, et pour eux, c'était extraordinaire. Mais ils n'avaient pas une bonne image de Dieu, ils n'avaient pas confiance en Dieu, alors que Dieu leur a montré, manifesté sa gloire dans le désert, au travers du tabernacle, mais ils n'avaient pas une bonne confiance, une confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils périrent. Lorsqu'Israël s'est plaint dans l'épreuve, dans le désert, Dieu les a disciplinés. Le désert n'était pas pour eux le bon endroit pour le culte, pour adorer Dieu. Ils n'étaient pas dans leur confort, dans leurs habitudes, dans ce qu'ils imaginaient. Et le désert n'était pas le bon endroit. Mes frères et sœurs, si pour eux, le Dieu du désert, c'est le même Dieu qui les a délivrés de l'Égypte à main forte et à bras étendus, eh bien le désert aurait été pour eux le meilleur endroit pour l'adoration. Et ils auraient eu des vies complètement transformées, des vies livrées. Ils ne seraient pas morts dans le désert, mais ils seraient rentrés dans le pays de la promesse. Mais voyez, eux, pour eux, ce n'était pas parce qu'ils avaient un culte pour eux, ce n'était pas un culte pour Dieu. Et pour eux, il fallait que tout aille bien, qu'ils mangent ce qu'ils avaient envie, que voilà, ça se fasse comme ça, qu'il n'y ait pas de... Mais Dieu venait de les délivrer de Pharaon, de l'Égypte. Et ils se plaignent de ce que Dieu les conduise dans le désert, et ils se plaignent de Dieu. Parce qu'en fait, ils se plaignaient de Moïse, mais Dieu lui dit, mais c'est pas toi, c'est de moi qu'ils se plaignent. Vous savez, souvent on se plaint des autres, des gens, mais c'est finalement à Dieu qu'on a mis des reproches. Je ne suis pas heureux, Seigneur, avec toi. Je n'ai pas une bonne vision de toi. Je ne te vois pas comme le Père compatissant qui me conduit, qui me bénit. Moi, je rechigne, voilà, ça ne va pas. Et si, et là, c'est la faute aux autres, c'est la faute... Mais non, on pointe le doigt sur Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés à main forte et à bras étendus de ce monde, du diable, des griffes du malin. Et je crois que nous devrions, au contraire, lui être reconnaissants. Dire merci Seigneur pour la vie que j'ai en toi. Merci Seigneur, je te loue. Spurgeon pouvait dire, quand des païens voient des chrétiens remplis de l'esprit, un esprit de louange, de reconnaissance, eh bien, ils pourraient se dire, mais quel maître bon ils ont. Mais si le monde nous entend nous plaindre, gémir, eh si, et là, mais j'ai pas ça, il me manque, mais bon, la vie que j'ai me plaît pas, je si, et là. Mais alors, s'il nous a sauvés, mais le salut, c'est plus que tout. Plus que tout. Et nous devrions passer notre vie à le louer, à le célébrer, à parler de lui autour de nous, mais à parler avec comme quelqu'un que nous aimons. Regardez la Samaritaine, quand elle a parlé de Jésus aux gens de son entourage, pourtant ils ne pouvaient pas trop la voir. Hein. Mais elle leur a parlé de Jésus, elle les a aimés, elle leur a parlé de Jésus, mais elle leur a parlé de telle manière qu'ils sont tous partis en courant voir Jésus. Ça c'est la meilleure évangélisation. Hein. Si on est en communion avec le Seigneur, qu'on l'aime, il y a des paroles qui vont sortir et les gens vont dire, mais c'est vraiment, ils sont passionnés, ils aiment. Mais si on leur dit, bon, venez, si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Israël a appris que le Dieu qui est miséricorde et fidélité est aussi un Dieu exigeant. Dans Genèse, il est question de 22, il est question d'un engagement envers Dieu exigeant, parce que Dieu ne... Vous savez que Dieu ne tolère pas de rivaux dans nos vies. C'est un Dieu jaloux. Il dit, choisissez, comme Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais Jésus dira, mais choisissez, soit c'est Mammon, le monde, les richesses, les loisirs, tout ça, soit c'est Jésus. Donc il place l'argent au même niveau qu'un dieu. Le dieu argent, Mammon, dit, mais il faut choisir, vous ne pouvez pas faire un amalgame des deux. Et aujourd'hui, ce qui a affaibli, je le dis souvent, mais on le dit, ce qui a affaibli l'Église à un point terrible, c'est qu'il y a un amalgame, c'est qu'il y a du compromis, c'est qu'on essaie de composer avec ceci, avec cela, et Jésus en même temps, parce qu'on veut quand même passer notre éternité avec lui. Donc on fait un amalgame comme ça, mais non, Jésus nous veut pour lui tout entier. Tout entier. Ouais, mais bon, j'ai donné quand même 40% au Seigneur de ma vie. Non, non. Jésus nous veut tout entier. Parce qu'il peut faire avec nous, si nous lui livrons nos vies, des choses qui dépassent notre entendement. Donc nous sommes appelés par le même Dieu, ce Dieu qui donne un avenir par le miracle de la résurrection. Nous avons un avenir en Christ. C'est le même Dieu qui nous appelle à lui sacrifier notre avenir. Et c'est là que Dieu nous donne son avenir à lui. À une époque d'épanouissement personnel, l'appel de Jésus demeure ferme et radical. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est encore d'actualité. Je sais que c'est à contre-courant. Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'épanouissement personnel. Il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit guéri de tout. Et finalement, on n'est guéri de rien. Et il faut ça, il faut penser à ce que cette pensée-là, elle n'est pas de... Mais ça, c'est... Il faut aller plutôt dans le monde. Moi, je ne critique pas les psychiatres, les psychologues du monde. Il y a besoin. Mais nous, on a Jésus. Jésus, et si on obéit à ce qu'il nous dit, lui, il agira. Il agira d'une manière extraordinaire. Pour pouvoir passer l'épreuve, le test, parce qu'en fait c'est un test là qu'Abraham a passé, mais pour le passer, le réussir, sortir en vainqueur, il nous faut la foi, c'est obligé. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut rien, on a une vision humaine, une vision négative de la vie chrétienne, une vision négative de Dieu, une vision négative de son plan. Mais avec la foi, eh bien, ça nous ouvre les yeux, ça nous ouvre le cœur, et on voit qui est Dieu, et ce Dieu qui a préparé pour nous un avenir glorieux, glorieux. On n'imagine pas ce que Jésus a préparé pour nous, ça dépasse notre entendement. Quand on voit un petit peu, on avait vu Apocalypse 4 et 5, on voit un petit peu le ciel, mais c'est la demeure pour nous que Jésus est en train de nous préparer, mais quel honneur, quelle grâce! On dirait des misérables comme nous, comme moi, un misérable pécheur qui a été sauvé par grâce, mais dans un ciel de gloire où nous voyons la description, on se dit, mais c'est pas possible que Jésus nous a aimés à ce point de nous préparer un endroit comme il nous a préparé. C'est un avenir glorieux. Glorieux, merveilleux. Donc il nous faut la foi. Je le rappelle, l'esprit de ce monde... C'est quoi l'état d'esprit de ce monde? C'est de tout savoir, d'être assuré sur tout, de tout comprendre, de tout analyser avant de faire. Mais ça, c'est l'esprit du monde, et je le conçois. Quand on n'a pas le Seigneur, on n'a pas la foi. Je comprends qu'on a besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout analyser, de tout disséquer avant de s'engager. Mais Dieu nous appelle à un pas de foi. Même si nous ne savons rien, si nous avons confiance en lui, nous y allons. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham et lui dit « quitte ton pays », etc. Abraham ne savait même pas, ne connaissait que très peu Dieu, mais il a obéi. C'était un païen idolâtre, Abraham. Et il va obéir à Dieu. Et à partir de son obéissance, eh bien, la porte s'est ouverte. Dieu a conduit sa vie. Et même s'il ne savait pas où il allait, mais il savait que le Dieu qui l'appelait, eh bien, était un Dieu fidèle. Et c'est pour cela que, et sans la foi, c'est impossible. Si on continue avec la pensée du monde, d'avoir toujours des craintes, toujours peur, toujours être là, tiraillé, mais on n'avance pas. On n'avance pas. On ne pourra jamais avancer. Mais Dieu nous appelle à la foi. La foi, cette confiance en lui, une confiance entière. Dire « Seigneur, tu me parles Eh bien, je m'engage. Je ne sais pas tout, mais je te connais. Je sais que, Seigneur, ce que tu prévois, c'est bon. L'appel des disciples. Mais si on regarde, quand Jésus passe au bureau des péages et il appelle Matthieu, Lévi, il lui dit, « Toi, suis-moi. » Que savait-il ? Que savait-il sur l'avenir qui était réservé pour eux ? Que savait-il sur la mission que Jésus allait leur confier ? Que savait-il ? Il ne savait rien. Il ne savait rien. « Toi, suis-moi. » Il nous est dit que laissant tout, il suivit Jésus. Mais c'est ça la foi. Il suivit Jésus. Dans la vie chrétienne, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne savons pas, mais Dieu sait. Quand il nous appelle, on n'a pas besoin de demander une confirmation, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais qui sommes-nous ? Si Dieu nous parle, est-ce que ce n'est pas suffisant ? Est-ce qu'on a besoin ? On dit oui, mais il y avait Gédéon qui a mis qui a demandé avec la toison. Ben... Bon, c'est notre Père Céleste. Il ne nous trompera pas. Il ne nous enverra pas dans une voie de garage. Tous les hommes qui l'ont suivi ne savaient pas, mais ils le connaissaient. Ils ne savaient pas ce qui allait les attendre. Ils ne savaient pas les tenants, les aboutissants, mais ils lui ont fait pleinement confiance. Voyez, pour Abraham, il a eu une telle confiance, ça dépasse notre entendement, parce que nous sommes dans l'ancienne alliance, nous sommes, et ce que cet homme a, c'est pas pour rien qu'il a été appelé le père des croyants, mais dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, quand nous lisons Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 17, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Et chaque fois c'est souligné, son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait, vous voyez ce qui était dans son cœur à Abraham ? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Mais voyez ce qui animait le cœur de cet homme, d'Abraham, cet homme de Dieu. Mais jamais il n'y avait eu de résurrection. Comment pensait-il, lui, que s'il offrait son fils, Dieu était capable de le ressusciter ? Il faut vraiment une confiance totale en Dieu, hein. Il l'avait. D'ailleurs, dans notre texte, il dit à ses serviteurs au verset 4, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Voyez un peu, moi c'est des leçons ça, hein, pour nous. « Ah oui, mais c'est l'Ancien Testament aujourd'hui. » Non, c'est l'Ancien, mais le Dieu de l'Ancien, c'est le même que le Dieu du Nouveau. Et ce qu'il peut faire avec un homme, une femme, un jeune, c'est extraordinaire. Quand il y a une vie livrée, quand on arrête un peu de... Il faut arrêter. Nous, on est appelés à suivre Jésus. On est appelés à obéir à la parole. Oui, mais s'il y a ceci, il y a cela... Il faut arrêter. On suit le Seigneur, on suit Jésus dans la voie qu'il nous trace. Tout au long de son voyage, Abraham a appris que Dieu était digne de confiance et qu'il ne pouvait pas mentir. Si Dieu a dit que c'est par Isaac qu'il aurait une postérité, alors il était logique que Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Vous voyez, il savait que Dieu ne pouvait pas mentir. Il savait que Dieu lui a dit, c'est en Isaac que tu seras béni, que tu auras une postérité comme le sable de la mer. Et lui, pour lui, voilà, Dieu ne pouvait pas le tromper. Si Dieu lui demandait momentanément, ce serait pour une résurrection, parce que c'est en Isaac qu'il serait béni. Quelle confiance. Dans le verset 8, il poursuit, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même. Abraham ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Nous, on le sait parce qu'on a le texte, mais lui, il ne le savait pas. Mais il savait que Dieu pourvoirait. Et c'est là qu'il a été appelé Yahvé Jiré. Alors nous devons comprendre que le but de Dieu dans l'épreuve est de révéler ce qui est au fond de notre cœur. Nous avons besoin pour progresser que Dieu puisse révéler ce qu'il y a au fond de notre cœur. Je ne dis pas dans notre tête ou dans notre bouche, je dis dans notre cœur. Parce que Dieu le sait, il dit au travers de l'ange, il dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Mais il le savait, Dieu. Il le savait qu'Abraham le ferait. Il le savait. Mais Dieu veut aussi révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Dans le Deutéronome verset 8, si vous notez, chapitre 8, pardon, du verset 2 à 5, on ne va pas le lire, ça nous mènerait trop loin, mais vous le lisez, quand Dieu a conduit le peuple dans le désert, c'est pour savoir quelles seraient les dispositions de leur cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa loi. Il les a conduits dans le désert pour les humilier et pour savoir quelles seraient les dispositions de leur cœur. La vie chrétienne, c'est une relation de cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas le cérébral, ce n'est pas ce que nous savons. Ce n'est pas la relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Elle est spirituelle, elle est profonde. Et Dieu veut sonder nos cœurs, non pas pour nous écraser, mais pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour qu'il puisse se servir de nous, sans révélation de Dieu. Mais comment nous témoignons ? Ah, point A, voilà, point B. Non, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand nous avons cette communion avec Dieu, cette relation où il peut nous humilier, où il peut vraiment nous mettre à genoux et pleurer devant lui, mais il y a une œuvre profonde qui se fait avec la repentance. Je sais que c'est un gros mot aujourd'hui, la repentance, mais je le dis quand même parce que c'est biblique. Mais la repentance, ah, que Dieu soit béni et qu'il nous amène dans ses voies. Oui, nous proclamons beaucoup de choses de notre bouche et nous le faisons sincèrement. Mais est-ce que c'est le reflet de ce qu'il y a dans notre vie et dans notre cœur ? Est-ce que c'est vraiment le reflet ? Vous savez, on peut dire facilement, « Seigneur, je te livre toute ma vie, je te donne toute ma vie, tout est entre tes mains. » Est-ce que c'est vrai ça ? Si on s'arrête, on dit, « Seigneur, attends, oh là là, je m'engage rapidement là. » Mais après, je vois que finalement, Vous voyez, il faut que ça change. Il faut qu'on puisse laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nos reins. Et pour voir, pour nous ouvrir les yeux, parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Dieu sait si, quand nous louons, quand nous confessons des choses, Dieu sait si c'est, ça reflète vraiment notre cœur. Que Dieu nous aide, que Dieu puisse et que le Saint-Esprit puisse encore nous toucher et nous convaincre. Et que nous n'ayons pas des cœurs trop durs pour que rien ne... Je sais, je connais, moi je marche avec Dieu, je sais. Comme je vous l'ai dit, le terrain de Dieu, c'est un terrain sacré. Il faut enlever les chaussures de notre pied. Quand Dieu dit à Moïse, ôte les chaussures de ton pied. Rien de ce monde ne doit venir là. Tout ce que tu as foulé avec les pieds dans ce monde, dans l'Égypte, ne vient pas dans le terrain de Dieu. Dans le terrain de Dieu, tu es comme un petit enfant. Tu as tout à apprendre. Tu as tout à recevoir du Seigneur. Tu t'inclines devant Dieu. Ah, nos prières changeraient aussi. Et je m'inclus, parce que parfois on prie machinalement, mais voilà. Que Dieu nous aide. Pour Abraham, l'épreuve a révélé que la crainte de Dieu était plus grande que la perte de son fils. L'épreuve révèle peut-être l'orgueil dans notre cœur, la colère, la mondanité, le manque de foi. Quelle grâce quand le Saint-Esprit peut encore nous toucher. Je vous dis, c'est une grâce extraordinaire. Quand dans nos moments de prière, le Saint-Esprit peut encore nous toucher et nous amener, pleure pas tous, je veux dire, c'est pas, mais que nous amener à nous humilier devant Dieu, à reconnaître que nos vies, elles ont besoin de sa grâce et un besoin vital et criant de sa grâce et du secours de son esprit. L'épreuve révèle que nos cœurs ne soient jamais trop durs pour ne plus laisser le Saint-Esprit comme cette terre qui est tellement dure que l'eau ne pénètre plus. Versets 13 et 14, et je termine. Dieu se pourvoira. Dieu pourvoira. Dans le texte, c'est Dieu veillera. Dieu fournira. Dans chaque épreuve, Dieu pourvoit. Pour expérimenter Yahvé Jiré, il faut arriver au bout de nos ressources humaines. Pour expérimenter le Yahvé Jiré, Dieu pourvoira, il faut arriver aux limites de j'ai, je peux, je fais. Il faut arriver à ces limites-là et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux balayer tout ce que je me suis fabriqué. J'ai besoin de toi. Et Dieu pourvoira quand on arrive là, aux limites de nos raisonnements, aux limites de nos forces, quand il y a un besoin réel, un besoin profond, eh bien Dieu va pourvoir. Est-ce que notre besoin réel et notre besoin profond, il est spirituel? C'est à méditer, hein? Ce n'est pas des automatismes. Parce qu'un besoin spirituel modifie notre vie. Quand Dieu pourvoit, ça modifie notre vie. Yahvé, j'irai au bout aussi de nos impossibilités. Dieu a répondu aux besoins d'Abraham. Et en même temps, Dieu s'est révélé. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui se révèle. Progressivement, Dieu est un Dieu qui se révèle. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons. Et plus nous connaissons Dieu et plus nous lui faisons confiance. Et moins nous le connaissons, moins nous lui faisons confiance. Même si de nos bouches nous disent « Seigneur, je te donne ». Oui, mais si on ne connaît pas celui à qui on s'adresse vraiment, je dis parce que bon, je ne mets pas en cause le salut, hein, mais si on ne le connaît pas vraiment, par révélation, par l'esprit, par la parole, Dieu a répondu aux besoins d'Abraham, mais en même temps, il lui a révélé une facette de sa personnalité, de sa nature, de ses attributs. Comme il lui a révélé aussi, dans le chapitre 15, Dieu justice. Et dans un autre passage, il est appelé aussi de Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Pour une révélation, il faut une vie livrée. Sinon, on aura une connaissance intellectuelle, une connaissance par habitude, religieuse, mais une connaissance par révélation, il faut lui livrer nos vies, il faut le laisser nous sanctifier. Dieu ne vient pas habiter comme cela, pleinement, nous remplir. On ne devient pas comme ça le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous le dit, mais Dieu ne cohabite pas. Hein. Dans toute notre vie, nous devons chercher à magnifier, à élever, à glorifier Christ. Ce texte est prophétique, comme je l'ai dit, cela nous parle du sacrifice de Jésus. Mais vous savez, Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu l'a arrêté au travers de l'ange avant qu'il le sacrifie. Mais Dieu, lui, a donné son fils. Et Jésus a été sacrifié à la croix. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Dieu a donné son fils, son unique, comme là. Sur le mont Golgotha, pas loin du mont Morija, Dieu a sacrifié son propre fils. Il l'a ressuscité des morts et il vit au siècle des siècles. Alors dans ma vie et dans l'épreuve, eh bien que je puisse me souvenir que Dieu est en train de sonder mon cœur. Ouais, mais je souffre de ça. C'est pas le plus, c'est pas voilà, je souffre, Dieu, délivre-moi, guéris-moi. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. J'essaie de comprendre pour moi. Mais je ne sais pas, mais disons pas de suite, Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas être... voilà. Mais disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que tu veux me faire grandir? Montre-moi, sonde mon cœur et mes reins, vois ce qu'il y a au fond, et montre-moi ce qu'il y a au fond de mon cœur. Est-ce qu'il y a de la dureté, de l'orgueil? Est-ce qu'il y a de la résistance, de la rébellion? Est-ce qu'il y a un amour pour le monde, des choses cachées qui sont dans mon cœur? Seigneur, sonde-moi. Et amène-moi vraiment à ce que tu puisses me révéler ces choses, que je puisse les abandonner et que je puisse t'offrir un sacrifice vivant. Moi, je crois que Dieu veut vraiment faire de grandes choses, mais avec ce que nous lui permettons de faire dans notre vie. Abraham lui a permis toute latitude, et Dieu a fait en fonction. Les disciples, eh bien, on les trouve dans les Actes des Apôtres, c'est des vies livrées, mais livrées vraiment. Certains sont morts pour leur foi. Vous voyez, quand on traverse des difficultés, relativisons, lisons la parole. Nous, on est là à dire, ouais, mais moi, voilà, je suis contrarié, je suis ceci. Mais nous, les premiers disciples, ils mouraient pour leur foi, pour être agréables à Dieu, obéissants. Ils mouraient en martyrs. Qu'est-ce que nos légères, entre guillemets, parce que c'est Paul qui le dit, c'est pas moi, lui pouvait le dire, parce qu'avec ceux qu'il a traversés, il disait, nos légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire qui nous est réservé dans les cieux. Nos légères afflictions, relativisons, tournons-nous vers Christ. Lui ne nous décevra jamais. Lui, ce qu'il nous demande et ce qu'il veut nous faire traverser. Sinon, nous échouons dans l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va appeler de suite après une autre épreuve. Et si nous échouons encore avec de mauvais raisonnements, de cœurs qui rechignent, eh bien, il y aura encore l'épreuve et ça va faire comme le peuple de Dieu dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Alors que Dieu nous aide à lui dire, Seigneur, moi je veux obéir à ta parole. Tu me demandes de te livrer ma vie, Seigneur, ouais, il y a des choses, il y a des résistances peut-être en moi. Seigneur, montre-les-moi, que je puisse les confesser, les abandonner sur l'autel, Seigneur, et que tu puisses te servir de moi, que je sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta parole, merci pour l'exemple d'Abraham. Il était un homme de la même nature que nous. Seigneur, et tu as pu œuvrer dans sa vie. Seigneur, tu as pu vraiment faire de grandes choses au travers de cet instrument, parce qu'il avait livré sa vie entre tes mains. Seigneur, étape après étape, Seigneur, il avait une confiance en toi. Permets que j'aie une confiance en toi. Tu vois encore mes faillites, mes doutes. Seigneur, tu vois encore mes résistances internes. Seigneur, viens à mon secours. Que le Saint-Esprit vienne à mon secours. Et que je puisse, Seigneur, te voir tel que tu es. Alors tout tombe devant toi, toutes ces choses qui résistent, elles tombent devant la révélation de qui tu es. Merci de bénir mes frères et sœurs, de bénir les familles que nous représentons. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.